dans le cadre d'un partenariat entre le collectif des radios libres d'Occitanie et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les radios membres du CRLO vous proposent des magazines sur le thème des luttes contre la pauvreté et les discriminations. Aujourd'hui, Radio Campus Toulouse sur le thème « Précarité et santé mentale ».
Vous dit bonjour Pierre Sugmela, haut fonctionnaire d'un conseil départemental, professeur d'université associé et œuvre au quotidien pour le service public en faveur des personnes en situation de handicap et personnes âgées. Il est spécialiste notamment de l'autonomie. Alors la raison pour laquelle, parce que ça a été quand même un livre de chevet, pratiquement aussi important que celui de Mathieu Bellassem sur la révolte de la psychiatrie, parce que c'est vrai que à la fois c'est ce livre qui s'intitule La société inclusive jusqu'où aller, c'est les propositions d'un nouveau modèle de société et justement pour quand même être un peu générique et aussi ne pas perdre nos auditeurs, société inclusive, et c'est bon que vous soyez là puisque vous en êtes l'auteur, le terme d'inclusive d'abord n'est pas choisi au hasard puisque c'est le processus qui est aussi important par rapport au fait d'entendre inclusion et exclusion. Et j'aimerais donc, alors je ne sais pas s'il faut parler aussi de l'inspiration de l'ouvrage étant donné vos fonctions, ça paraît couler presque de source, mais je voudrais quand même que vous présentiez dans la terminologie ce qu'on peut entendre par société inclusive.
Bonjour Monsieur Gare et merci beaucoup pour cette invitation. Alors le terme inclusif, il est très à la mode, très utilisé de beaucoup de manières, on peut l'entendre vraiment dans des contextes très très différents et à tel point que parfois ça perd tout son sens. Quand on entend que les talibans, quand ils ont repris le pouvoir, ils ont utilisé le terme de gouvernement inclusif, ça pose des vraies questions sur qu'est-ce que ça veut vraiment signifier pris dans ces extrêmes-là. Donc il y a un souci avec ce terme par rapport au fait que c'est devenu un mot à la mode et parfois dont on lui enlève tout l'intérêt, toute la définition qui est pourtant bien réelle au fond et qui est véritablement un changement de paradigme. Parce que parler d'une société inclusive, ça veut dire qu'on change complètement, en effet, deux modèles de société. Pour faire simple, c'est l'idée que pendant très longtemps, dans la société, une société fonctionne nécessairement avec des normes sociales, et pendant très longtemps, le seul mouvement qu'il y avait, c'était de demander aux individus qui composent la société de s'adapter à cette norme. Et donc, on demandait cet effort de l'individu de rentrer dans la norme. Et la question qui se posait, c'est qu'est-ce qu'on faisait alors du coup des personnes qui n'étaient pas dans la norme ? Et la réponse, c'était, alors il y a eu divers modèles, du modèle le plus dégradé qui soit l'exclusion où on laisse les personnes à l'écart de la norme livrées elles-mêmes, jusqu'à un modèle plus poussé qui a été le modèle de l'intégration qui est encore présent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se dit que ces personnes à l'écart de la norme, elles ont leur place dans la société, mais dans des circuits différenciés. Exemple typique, c'est l'école, avec l'idée que pour les élèves qui ne suivraient pas le programme scolaire ou qui seraient trop à l'écart de la norme de l'élève scolaire, sa place est dans des dispositifs spécialisés d'école et pas à l'école ordinaire. Or, le passage à une société inclusive, c'est de se dire qu'on arrête de mettre un curseur entre des personnes qui arriveraient dans la norme et les autres, et on part du principe que tout le monde doit être dans la société. Et ça ne veut pas dire que les normes disparaissent, ça ne veut pas dire que tout est possible, mais ça veut dire que on change la manière de fonctionner et avec quelque chose à la fois de beaucoup plus fort qui est qu'on doit s'adapter à la situation de chacun et donc quelque chose de très ambitieux, mais aussi quelque chose de très positif qui est que ça permet à chacun d'avoir pleinement sa place au sein de la société, d'où le terme d'inclusif dans son sens plein. Et je pense que c'est important de bien s'accorder sur les définitions pour voir ce que ça implique derrière dans la manière de faire.
Oui, d'autant que vous abordez absolument, je trouve, tous les facteurs politiques, sociaux, justement pour cette participation de l'individu vers le collectif et vice versa. Mais si vous le voulez bien, puisque contrat il y a sur la précarité, alors moi évidemment ça m'évoque davantage, mais enfin vous répondrez, je suis sûr, voilà, un peu vers le dernier chapitre. Moi, je me sens dans un monde où le libéralisme et l'économie est vraiment partie prenante de tout ce qui se passe. Je pense par exemple à l'existence des médias, qui est d'une pauvreté vraiment absolument indéniable. Et je dis ça parce que, bon, voilà, à chaque fois, j'en suis étonné. Et justement, par rapport à la précarité, alors, bon, c'est vrai que dans le dernier chapitre, vous ventilez des manières de venir, suivant les capacités des individus, ce qui serait le mieux adapté par rapport à leur projet de vie. Mais justement, comment vous vous expliqueriez que ce que vous proposez serait un moyen de lutte contre la précarité, en quelque sorte?
Alors, tout à fait, c'est... la manière de fonctionner dans une société inclusive ne permet pas directement de traiter la question de la précarité, mais c'est parce que c'est une approche globale qui s'inscrit beaucoup plus dans la prévention et dans la recherche de l'épanouissement de chacun qu'il y a la possibilité justement de laisser la possibilité aux capacités, aux capacités potentielles, comme je les appelle dans l'ouvrage, de s'exprimer et donc d'avoir cette possibilité d'évolution. Alors il y a des choses qui sont déjà... en cours et à l'œuvre dans la société telle qu'elle est. Et on a la promotion de l'approche inclusive, pour, y compris au niveau de la Commission européenne, y compris au niveau national, pour justement être une voie de sortie de la précarité, avec cette idée qui rejoint le pouvoir d'agir, la possibilité de développer toutes les potentialités des personnes. Et ça, c'est une des dimensions de l'approche inclusive qui est intéressante. Mais là-dessus, il faut s'y attarder deux minutes pour bien comprendre ce qui se passe. Il y a un véritable risque derrière cette approche-là. Le risque, c'est de s'en tenir uniquement à l'idée qu'on donne les possibilités et ensuite c'est la personne qui est responsable entièrement du sort qui l'attend. Si elle ne s'en saisit pas, c'est de son fait, c'est de sa faute. Et ça, ça peut être terrible dans une société. Donc c'est un des risques du coup d'une approche inclusive vue dans une version assez pauvre, en fait, ce que j'appelle une approche plate de l'inclusion, où l'idée, c'est de mettre les personnes au milieu de la société, de se dire, voilà, vous avez accès potentiellement à tout, et maintenant, vous devez agir. Or, l'enjeu pour lutter contre la précarité, c'est d'aller plus loin, et je vais prendre une métaphore pour bien me faire comprendre. Quand une personne est enfermée dans une maison, par exemple, évidemment, le premier objectif, c'est de pouvoir ouvrir la porte pour lui permettre de sortir. C'est ce qui est fait à travers les politiques aujourd'hui qu'on connaît, dont certaines sont qualifiées de politiques inclusives. Et c'est une très bonne chose, évidemment, si la porte est fermée, on ne risque pas de s'en sortir. D'où la nécessité aussi de l'égalité des chances et de toutes ces dynamiques-là. La limite, et c'est là où il faut bien se comprendre, c'est qu'il ne suffit pas d'ouvrir la porte pour que la personne sorte. Sinon, le risque, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de dire, mais vous voyez bien, on a ouvert la porte, vous ne sortez pas de la maison, c'est bien que vous avez un problème, et le problème vient de vous, et on peut en rester là, et à ce moment-là, c'est assez catastrophique en termes de vie ensemble.
Ah oui.
Donc tout l'enjeu, c'est comment non seulement on arrive à ouvrir la porte, ce qui n'est déjà pas rien, et avec le modèle de protection sociale qu'on a, on a des possibilités vraiment dans ce sens-là, mais aussi d'être dans une démarche d'aller vers et d'aller vers la personne d'où elle part, pour lui permettre de l'accompagner. Est-ce qu'elle veut sortir de la maison? Oui, non. Pourquoi elle ne veut pas sortir? Est-ce qu'elle est éblouie par la lumière? Et à ce moment-là, comment on s'y prend pour l'accompagner? Et ça, c'est une manière profondément inclusive, au sens vraiment fort du terme, de s'inscrire dans une logique sociale d'accompagnement des personnes et dans une dynamique inclusive qui, de ce fait, va permettre de lutter contre la précarité.
Oui, mais dans ce nouveau modèle social dont vous parlez, moi, ça me fait référence, bien sûr, je n'ai pas enregistré la totalité de votre ouvrage, à ce que vous appelez le projet de vie et la capacité, justement, enfin, d'ailleurs, je devrais dire peut-être au pluriel, puisqu'il s'agit des individus, mais enfin, bon, je disais la capacité de cette société inclusive qui ne lâcherait personne. Mais est-ce que cette refonte ne nécessite pas des moyens? De ce que je peux connaître, hein, à mon niveau, qui est loin d'être le vôtre, des moyens qui sont donnés pour que cela puisse concrètement exister, enfin, ou je n'en ai pas connaissance, je ne sais pas.
Alors, il y a nécessairement la question que vous posez, qui est celle des moyens dont on dispose pour pouvoir réussir ce passage et cette évolution vers une société inclusive. C'est d'autant plus important qu'on est dans une dynamique très individualiste aujourd'hui, et que là aussi, il y a un risque de mal comprendre ce qu'est l'approche inclusive, dans une logique où les individus pourraient revendiquer que la société s'adapte à eux. Et c'est ce qui peut conduire au communautarisme, c'est ce qui peut conduire à l'exigence de chaque individu que les normes, ce soit sa propre norme et pas une norme collective et commune. Et ça, c'est un très très gros risque qui est assez peu discuté finalement, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans l'ouvrage. Ce que je voulais, c'était à la fois rendre positif ce mouvement où on part du projet de vie des personnes, c'est fondamental avant toute chose, qu'est-ce que veulent les personnes. Mais la définition de l'approche inclusive qui consistait à dire c'est aussi la société qui doit s'adapter à la situation de chacun, j'avais une vraie crainte, c'était de me dire mais à ce moment-là, est-ce que tous les individus ne vont pas revendiquer que toute la société s'adapte à sa situation, à sa position ? Et à ce moment-là, on ne va pas s'en sortir en termes de société, ça va conduire à quelque chose qui n'est pas vivable en termes de collectif. Comment on fait pour réintroduire à la fois de l'émancipation, de l'épanouissement individuel et du fonctionnement collectif ? Et c'est là où l'approche inclusive, en s'entendant sur le fait qu'on va jusqu'où dans une approche inclusive, on va jusqu'où dans une adaptation de la société aux situations de chacun, c'est on va jusqu'à la question de la capacité. Est-ce que la personne est dans la capacité de rentrer dans la norme ou non ? C'est seulement si elle n'est pas capable de rentrer dans la norme que là, on doit faire les efforts d'aller vers, d'aller plus loin. Et donc, potentiellement, c'est pour chacun et chacune, mais dans les faits, concrètement, en termes de moyens d'action, c'est là où il faut qu'on se concentre sur les situations des personnes qui sont vraiment dans une situation où c'est pas qu'elles veulent être à l'écart de la norme, c'est qu'elles ne peuvent pas être à l'écart de la norme. Et là, on doit s'imposer ce devoir collectif d'adapter nos normes, nos fonctionnements, y compris notre accompagnement, pour aller au-devant de ces personnes et les accompagner. Et c'est là où on retrouve une forme d'équité, de partir des situations des personnes et de leurs capacités. Parce qu'une personne qui voudrait clairement être en dehors de la norme et qui le décide délibérément parce que c'est son projet qu'elle le souhaite, à partir du moment où on a discuté que c'est clair que c'est son projet, bah à ce moment-là, on n'a pas à faire les mêmes efforts que pour une personne qui ne peut pas faire autrement que d'être à l'écart de la norme, et auquel cas, il faut qu'on puisse du coup s'adapter pour l'accompagner. Et c'est là où on peut proportionner les moyens pour que ce soit faisable, parce qu'on ne pourra jamais le faire pour la quasi-totalité des individus.
Et puis, est-ce que, humainement parlant, est-ce que ça ne voudrait pas sous-entendre que dans le projet de vie, on donne à ceux qui justement sont peut-être dans notre temps un peu individualiste et les écueils que l'on trouve à tracer son chemin, à donner corps à de l'existence là où des personnes seraient, comme on dit, irames, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à donner du sens. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion aussi de...
Alors c'est une notion fondamentale en effet, parce que le principe premier, c'est quand même de partir du projet de vie des personnes, mais c'est vrai que si le projet de quelqu'un, c'est uniquement de jouer aux jeux vidéo toute la journée par exemple, là c'est vrai qu'il va y avoir une problématique en termes d'épanouissement et d'émancipation, parce qu'il y a une forme d'auto-limitation. Donc tout l'enjeu, c'est comment on part quand même du projet de la personne et d'offrir des possibilités de contribuer, de participer à la société. Et c'est là où aussi les pouvoirs publics doivent penser des questions d'adaptation de la société pour faciliter cette participation, parce qu'il y a des personnes, du fait par exemple de déficience ou de situation de handicap, se retrouvent dans des contextes où ils ne peuvent pas développer une participation. Et c'est là où on doit, au niveau des pouvoirs publics, au niveau de l'ensemble des acteurs de la société, agir pour leur permettre, du coup, cette participation, leur offrir cette possibilité et leur montrer l'intérêt de cette possibilité, toujours dans une logique qui part du projet de la personne. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de la contraindre et de la forcer, mais c'est de l'amener, justement, à lui ouvrir les horizons, les possibilités.
Après, bon, je n'arrive pas bien à envisager les moyens que ça l'a contribue par rapport aux accompagnants des acteurs sociaux, mais une idée me traverse, puisqu'on est sur un thème de précarité, en fait serait renversé aussi le fait que ceux qui obtiendraient, alors c'est là où vous faites un chapitre un peu sur les formes, je ne sais pas si on dit allocation ou d'aide économique qui pourrait être attribuée, mais qui n'est plus le modèle actuel, qui fait qu'en fait Et je pense que dans le système de santé, pour l'avoir connu, c'est aussi un peu la même chose. Là où les choses se renversent, c'est que certains croient « j'ai obtenu mon AH complète, donc après tout, qu'est-ce que je vais attendre de plus dans la vie ?» Et la façon dont vous vous proposez, c'est quand même une adaptabilité économique en fonction justement des dites capacités qui demandent quand même des évaluations assez fines, me semble-t-il.
Tout à fait. Alors, vous soulevez deux points dans votre question. Le premier, c'est la question de la faisabilité. Et je veux quand même y revenir parce qu'on a des exemples concrets pour montrer comment faire pour pouvoir avancer et aller au-devant. Parce que l'enjeu, c'est aussi de le décliner concrètement. L'idée est belle, mais si elle n'a pas de débouché pratique et concret, elle ne restera qu'une idée. Or, l'enjeu, c'est vraiment de le décliner. Et après, de répondre sur la question justement du revenu universel, de la différenciation, pour, si on pousse la logique jusqu'au bout, voir les implications que ça peut avoir. Alors d'abord, sur la faisabilité. Quand je dis qu'on doit pouvoir, aussi bien les pouvoirs publics que les autres acteurs, organiser les choses pour permettre cette logique d'inclusion des personnes, deux exemples. Le premier, sur la question de la socialisation de personnes qui n'ont pas la parole et qui ne peuvent pas parler oralement, et qui ont des déficiences importantes. La question de la socialisation de ces personnes, elle est essentielle. Le besoin de socialisation, on l'a tous, ce besoin, il est considérable. La plupart des personnes dans la société l'ont par leur emploi, par d'autres activités. Qu'est-ce qui se passe pour des personnes qui ont des troubles assez importants et qui se retrouvent en général à côté de la société, du fait de déficiences et de complications réelles? Tout l'enjeu, c'est est-ce que c'est pas là aux acteurs publics d'organiser les choses pour adapter les conditions pour permettre du coup une socialisation. Et ce à quoi on est en train de réfléchir, c'est par exemple sur les ateliers inclusifs. Comment on fait pour permettre à ce que des personnes telles que je les ai décrites tout à l'heure puissent avoir des rencontres très régulières chaque semaine avec d'autres personnes au profil tout à fait normal, de manière spontanée? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui sera organisé pour leur permettre du coup de créer une socialisation? Autrement dit, les personnes qui ont une faible socialisation que je décrivais tout à l'heure, est-ce qu'elles ont une faible socialisation parce qu'elles ont des tels troubles du comportement que c'est difficile du coup d'avoir des relations amicales, sociales? Ou est-ce que c'est parce qu'elles ont des difficultés qui font qu'on les traite souvent à part pour leur propre bien, mais qui font qu'elles ne sont jamais en interaction et en rencontre avec d'autres personnes? Et c'est là où, pour les activités en question, ça suppose tout un travail d'adaptation pour que l'activité elle soit faisable en même temps par des personnes au profil classique et des personnes au profil très éloigné. Et c'est là où, par exemple, les pouvoirs publics, on peut mettre des financements pour permettre cette adaptation. C'est un premier exemple. Quand je dis aussi que la société doit pouvoir aider et répondre, la lutte contre l'isolement, on a là quelque chose d'important avec le vieillissement de la population. Or, moi, je me rends bien compte que dans mon voisinage, il y a des personnes qui ont beaucoup de temps et qui aimeraient beaucoup plus parler avec moi. Malheureusement, je n'ai pas le temps pour des raisons de charges de famille, des charges professionnelles, mais elles ont cette envie, cette volonté. Ces personnes, si elles fréquentent des personnes âgées, des clubs du troisième âge ou autres, elles ont du coup une réponse à leurs besoins. Par contre, si du fait de l'évolution de la vie, elles ont perdu leur conjoint, se sont retrouvées seules, elles ne veulent plus faire l'effort d'aller chercher justement d'autres relations, etc., qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on les laisse dans cette situation-là? Ou est-ce qu'on se dit, mais peut-être qu'il y a dans les mêmes villes, à d'autres endroits, mais suffisamment éloignés de cette personne pour qu'elle en ait connaissance, une autre personne qui est dans la même situation? Et à ce moment-là, si par un mécanisme de repérage, d'accompagnement de ces personnes, on arrive en fait à repérer que deux personnes ont des affinités similaires et qu'elles sont dans la même situation, à la fin, l'une répond aux besoins de l'autre et l'autre répond aux besoins de l'une. Et du coup, la société répond elle-même aux besoins de socialisation. Mais là aussi, ça veut dire qu'il y a tout un dispositif qui est organisé sur lequel on veut expérimenter justement au niveau du conseil départemental pour faire en sorte qu'il y ait cette lutte contre l'isolement et qu'à terme, si ça marche, c'est une expérimentation, ça peut ne pas marcher, mais si ça fonctionne, ça voudra dire qu'on sera arrivé à ce que la société réponde elle-même à ses propres besoins sans que ça demande des moyens supplémentaires ou des financements gigantesques. Ça demande que des conditions d'adaptation. Donc pour moi, il y a des choses très concrètes qui sont faisables à condition qu'on s'empare de cette dynamique-là sans que ce soit des coûts nécessairement faramineux. Il y a des actions, nécessairement, il y a des coûts. Il y a d'autres actions, ça peut être beaucoup moins coûteux et avec beaucoup, beaucoup d'impact sur la vie des personnes. Et vous me demandez après sur la question du revenu universel. Mais je peux m'arrêter là sur cette question si vous...
Oui, oui, la question du revenu universel, vous pouvez en dire un mot, oui. Est-ce que ça vous semble une liberté ou une contrainte, j'ai envie de dire.
Non, c'est une véritable liberté. Et moi, je suis très, très favorable à un revenu qui soit suffisant pour pouvoir vivre. Mais en fait, là aussi, si on pousse la logique que j'ai dans le livre Pleinement Inclusive, oui. C'est de pouvoir la proportionner aux capacités des personnes. Si une personne a les capacités de subvenir à ses besoins, est-ce qu'il faut, du coup, amener la même allocation que pour quelqu'un qui n'a pas du tout la capacité de travail ? Et c'est là où je pense qu'on devrait avoir des différenciations dans les revenus entre des personnes qui peuvent pas travailler, en tout cas avoir de l'argent par le fruit de leur travail, et d'autres personnes qui pourraient avoir une partie, et des personnes peut-être qui choisissent de ne pas travailler. Et à ce moment-là, c'est pas la même, à mon avis, allocation qui doit être attribuée aux personnes, ce qui laisse de la liberté aux personnes, mais pas avec le même montant. Et ce que je propose dans le livre, c'est d'en tenir compte, ce qui permettrait de sortir du débat de l'assistanat et de se dire à chaque fois que les personnes, elles ont recours, moi je suis pas certain qu'il y ait tant de personnes que ça qui aient recours aux allocations, aux minima sociaux volontairement. J'en ai connu par le passé, donc ça existe, mais c'est quand même, je pense, très rare. Mais en tout cas, une telle réforme permettrait du coup de dissocier et de s'inscrire dans une autre dynamique qui permettrait de sortir du débat de l'assistanat. Et ce que je propose aussi, c'est qu'à côté de cette allocation pour vivre, il y a un fonds d'investissement social qui permettent d'accompagner les personnes et qui permettent de dérouler concrètement leur projet. Elles ont un projet de monter une entreprise. On peut imaginer un comité de sélection qui permette d'accompagner ou pas, parce que tout n'est pas non plus faisable. Mais à partir du moment où c'est possible, il y a un fonds qui est débloqué pour permettre du coup de réaliser ce projet. Et ça permettra aussi à la personne de se confronter à une réalité. Sinon, le risque aussi, c'est d'être dans des situations où... On regrette toujours de ne pas avoir pu, hein, on est tous comme ça, moi le premier, mais si on n'a jamais pu se confronter aussi à la réalité, parce que c'est difficile aussi de mener certains projets, du coup on peut rester dans une forme de frustration par rapport à ça. Et c'est là où il faut aussi arriver à dépasser cette frustration énorme qui est au sein de la société en développant par exemple cette forme d'aide et d'allocation. Voilà pourquoi je propose du coup cette forme plutôt innovante, d'accompagnement
et d'envergure.
Et qu'il ne manquera pas de faire débat.
Après, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie aussi de m'approprier, de par peut-être mon champ de connaissances, mais je pense que vous l'avez aussi bien abordé dans votre ouvrage, par rapport au système de santé. Moi, je trouve qu'il y a, à l'heure qu'il est, une certaine perversité dans le fait que, pour parler de la santé mentale, et moi j'aime bien employer le mot d'handicapé psychiatrique, ou ça peut être des polyhandicaps, hein, quoique c'est pas tout à fait pareil, mais l'accompagnement est tel que ceux qui auraient pu ne pas être, alors je parle pas des formes de curatelle, de tutelle et tout ça, qui sont proposées avec une liberté sans savoir les entraves, voilà, puisque j'ai travaillé dans un organisme qui avait des services de tutelle, donc ça dépend de la tutelle. Et la perversité est que quelqu'un qui, dès l'adolescence, se retrouve un peu prisonnier, bipolarité, schizophrénie ou ce que l'on veut, l'entraîne souvent, en dehors de l'allocation qui peut lui être attribuée, faute d'accompagnement, justement dans des extrêmes de précarité. D'autant que, comme l'on sait, l'handicap psychiatrique crée souvent de l'isolement. Alors, je ne sais pas, je ne me souviens pas exactement dans le détail ce que vous proposez, mais là, je crois que au terme même de ce que j'ai pu côtoyer, même dans le sens large des soignants ou des participants à ces personnalités-là, il y a quand même matière à s'investir différemment.
Alors c'est une véritable question et vous abordez parfaitement la question, puisque vous parlez bien d'un côté du côté social de la situation de la personne, d'un autre côté de l'aspect sanitaire de l'accompagnement de la personne, et c'est un des gros enjeux du modèle d'aujourd'hui. Les secteurs sanitaires, le secteur médico-social, le secteur social se sont construits chacun séparément. Or, une personne, c'est une seule et même personne qui a des besoins d'accompagnement différents. Et un des grands enjeux, c'est comment on bascule une société très tournée sur le sanitaire avec le médical qui sait ce qui est le mieux pour la personne. Ça, heureusement, on est en train de le dépasser voilà, très, très concrètement et en remettant l'importance du coup de l'expertise sanitaire comme une expertise justement, mais pas comme une décision absolue sur un projet d'une personne par exemple. Donc ça, c'est très intéressant, cette dynamique-là. Mais on demande aussi peut-être aux sanitaires de voir toutes les formes d'accompagnement possibles. Or, le sanitaire s'en tient au sanitaire. Donc tout l'enjeu, c'est comment on arrive justement à avoir des passerelles beaucoup plus grandes pour pas non plus que ce soit qu'une bascule, par exemple, sur le champ social, alors qu'après, les travailleurs sociaux vont se retrouver en difficulté. Il y a quand même aussi, dans les exemples que vous donnez, une problématique sanitaire qui fait qu'un travailleur social n'aura pas les réponses. Et donc c'est comment on travaille cette interinstitutionnalité pour pouvoir permettre de répondre le mieux possible aux besoins des personnes et qu'on sorte de cette logique d'une offre qui pense, voilà, offre, service proposé à la personne, à une logique où on parle à la personne de ses besoins et on arrive à s'organiser autour, ce qui est un énorme chantier, mais qui est déjà à l'œuvre, hein, en cours, mais en début. Et il faut pousser bien au-delà pour s'inscrire et ça rejoint tout à fait une logique inclusive pour la personne.
Ben écoutez, on peut l'espérer puisque je crois qu'un des derniers communiqués de l'ARS, il y a une commission qui a été mise en place sur des budgets assez conséquents qui doivent justement sur ce suivi. Enfin, je pense que vous devez faire partie des personnes qui suivent évidemment ces projets. De toute façon, ce que je peux dire, c'est que la société inclusive jusqu'où aller de Pierre Succmella, plus que jamais, j'inviterai évidemment nos auditeurs à la voir et à le consulter, parce que c'est un modèle de société nouvelle qui a créé, qui est en marche, j'espère. Et ensuite, j'ai envie de dire que ça devrait être aussi la bible de quelques politiques, même si vous parler très habilement qu'il n'y a pas d'enclave de gauche ou de droite, mais que quelque part ce nouveau modèle de société doit concerner la société dans son entier. Voilà.
Tout à fait, c'est un choix politique, pas nécessairement partisan, oui. Mais c'est un vrai choix de modèle de société et donc profondément une question politique.
Pierre Succmella, peut-être que nous nous retrouverons ultérieurement pour dire si ce chantier a bien avancé. Toujours, je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à ce micro.
Merci beaucoup, merci à vous, Monsieur Gare.
C'était un magazine du CRLO en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.